Initiatives citoyennes, rencontres, festivités. Partageons-les sur Calade.
Ma radio.
L'Assemblée nationale a débattu une séance publique jusqu'au 29 mai, le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole. C'est le troisième texte sur l'agriculture examiné au Parlement en moins de trois ans, après la loi d'orientation agricole votée en février 2025 et la controversée loi Duplomb sur les entraves au métier d'agriculteur, adaptée en juillet 2025, qui avait fait l'objet d'une pétition signée par plus de 2 millions de personnes. Alain Guay et Edith Oresta sont membres d'associations signataires d'un communiqué sur la loi d'urgence agricole et nous sommes ensemble pour en discuter et tout d'abord les raisons de leur engagement. Alain Guay.
On a organisé ce communiqué dans le cadre d'une coordination santé-environnement Rhône-Nord qui regroupe un certain nombre de structures concernées par cette thématique, des structures qui sont connues nationalement, comme Alternatiba, comme France Nature Environnement, la Ligue de Protection des Oiseaux, et leur déclinaison sur le terrain, sur le département. L'idée, c'est qu'on se rend compte que ce qui est en jeu dans cette loi, eh bien, finalement, nous concerne tous. Et on a décidé de réagir, d'interpeller à la fois les élus nationaux, locaux, et également les ministres en charge de ce dossier, pour dire notre refus de cette évolution vers une agriculture toujours plus industrielle, qui utilisent toujours plus de produits chimiques pour produire.
Alors Edith Oresta, peut-être dire deux mots effectivement sur la coordination sur laquelle toutes ces associations appartiennent.
Oui, une coordination qui a trois ans d'existence, qui est une plateforme d'échange pour permettre, devant l'ampleur des problématiques, les soucis, l'augmentation des maladies, de renforcer nos actions, de mieux informer les populations et d'être des interlocuteurs fermes avec les services de l'État, par exemple dans les commissions de suivi de site, les DREAL ou les ARS, et avec les élus locaux au mieux que nous pouvons. Je précise pour ajouter à ce que vient de dire Alain, que dans la coordination, il y a surtout et avant tout Génération Future, et que c'est à travers l'énorme travail que fait Génération Future sur le national, à la fois en termes de production, de recours juridiques, d'information, d'interpellation de l'Europe et de la France autour de ces questions. Donc, pour dire qu'on est sur un prétexte de sécurité alimentaire pour faire des reculs avec des lobbies évidents sur les avancées qui étaient celles de la prise en compte des dangers et de la possibilité de financer et d'adopter des solutions alternatives. On n'en parle plus.
Que représente la coordination santé-environnement Rhône-Nord de Neuville à Beaujeu ?
Notre coordination regroupe uniquement des associations. Il y en a 10 qui sont des antennes, des grosses structures comme Génération Future, Alternatiba, Réseau Environnement Santé, France Nature Environnement. Mais ce sont les structures locales. Nous sommes une action sur un territoire local. Nous utilisons nos moyens et nos informations sur l'ensemble du pays, sur le national, mais nous avons mis deux axes qui sont la surveillance des 9 usines Céveso et la présence dans les 9 usines Céveso du territoire. Et l'autre, c'est sur les pesticides et les PFAS dans les régions agricoles. Celui d'aujourd'hui concerne le focus viticole lancé par les coquelicots.
Ce projet de loi aborde des sujets aussi variés que le foncier, le revenu agricole, l'accès à l'eau, les extensions de bâtiments d'élevage, la prédation du loup, les contrôles aux importations ou encore la commande publique pour la restauration collective. C'est donc un énorme chantier et beaucoup d'attentes sur des sujets très très sensibles. Alors, quels sont en tous les cas vos positions?
D'une façon générale, la question posée n'est pas mauvaise. La situation économique de beaucoup d'agriculteurs est critique et ils sont confrontés à une concurrence sauvage sur des marchés européens ou mondiaux. La question de sécuriser l'activité des agriculteurs en soi n'est pas une mauvaise question. Ce sont la nature des réponses qui pose problème. C'est-à-dire qu'au moment où on a besoin d'une transition écologique, au moment où on a besoin besoin de régler ces problèmes de pollution induites par des pratiques qui sont plus à voir avec l'industrie qu'avec l'artisanat, eh bien, on se trompe de direction. On peut prendre l'exemple concret des épandages de pesticides. Des études menées par Génération Future en particulier ont montré qu'en fait, les pesticides partaient dans l'air à des distances qui sont de plusieurs centaines de mètres. Et donc, aujourd'hui, on a un périmètre de sécurité d'une dizaine de mètres. Et au lieu que la loi se dise, eh bien, on va préserver la santé des habitants autour de ces parcelles, n'étant pas ce périmètre de sécurité, et inverse la logique de précaution. Maintenant, ça va être aux habitants de faire en sorte de ne pas être atteints par cette pollution. Donc, on marche un petit peu sur la tête. C'est ça le problème, c'est que les solutions envisagées par cette loi sont tout à fait à l'envers de ce qu'on pouvait espérer.
Edith. Si je me permets d'ajouter, je vais plus loin. En fait, ce ne sont pas vraiment des recherches de solutions, c'est clair. Ça n'est absolument pas comme objectif de protéger une vraie agriculture de paysans saine. Derrière, il faut être clair, il s'agit de bazarder tout ce qui jusqu'à maintenant a permis un vague principe de précaution, et on veut donner libre cours à utilisation sans limite dans le temps. C'est le projet Omnibus, mais c'est européen, mais c'est dans la loi du plomb, c'est déjà pratiquement intégré sans le dire. Donc voilà, on est là, et il faut être clair, je pense, avec les auditeurs et avec les personnes. Nous, notre propos, c'est sur le fond lui-même, aujourd'hui, et on a tout ce qu'il faut pour le prouver par les scientifiques. Est-on capable, 1, de nourrir une population correctement, sainement, avec du bio, du local, et avec des bio et des locaux qui sont aidés et pas assassinés? Deuxièmement, est-ce que réellement, dans l'histoire des noisettes à droite, des betteraves à gauche, c'est réellement scientifiquement prouvé que si on n'utilise pas l'acétamipride, alors c'est foutu? Nous, on a des contre-études qui démontrent qu'on peut faire, qui ont des chiffres précis sur les productions. C'est-à-dire qu'on nous dit on n'aura plus que 3%. Tout ça est faux. C'est-à-dire qu'on manipule des chiffres. On cache des études parce qu'elles dérangent. On est en train de faire une pollution des esprits, et avec des slogans qui, hélas, sont percutés par les gens. Premièrement, on risque de ne pas manger tous à notre faim. Deuxièmement, les agriculteurs, ils se plaignent tout le temps. Et troisièmement, est-ce que aujourd'hui la question n'est pas d'abord et avant tout sanitaire?
Les raisons de réintroduire des néonicotinoïdes, même sous forme de dérogation temporaire, au risque de fragiliser les écosystèmes.
Les néonicotinoïdes, c'est notre affaire parce que ça bousille les animaux. Et on revient juste à la question qui aujourd'hui est absolument prégnante, c'est la question de la santé globale. Et que quand on bousille une espèce animale ou quelque chose, on détruit les humains et la planète. Donc aujourd'hui, soit on prend conscience de l'énorme danger, et qu'à travers des scuds du genre les lois du plomb ou les omnibus, on est en train vraiment de se plier aux exigences des industriels de l'agrochimie, de la FNSEA, etc. Et à ce moment-là, il y a une réaction citoyenne devant ça, ou il n'y en a pas, et ma foi, adviendra ce que pourra.
Moi, je pense que ce qui est important, c'est que le gouvernement n'écoute pas que la FNSEA. La FNSEA a son mot à dire, c'est le plus gros syndicat agricole, il n'y a pas de problème. Mais la FNSEA défend un modèle conventionnel qui pose problème. Et donc, il serait bon que le gouvernement et que les députés écoutent aussi une population qui soit informée de la réalité de la situation. Les études médicales montrent, par exemple, une augmentation très significative des cas de cancer chez les jeunes. Ça ne vient pas de nulle part. On baigne dans une atmosphère de molécules toxiques. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? On continue comme avant, on se bouche les yeux. Derrière ce communiqué, derrière notre action, il y a aussi la volonté de dire aux citoyens, vous avez un rôle à jouer, vous devez interpeller vos élus locaux, vos parlementaires, pour leur dire, stop, ça suffit, on n'en veut plus de cette pollution.
Des solutions alternatives sont-elles possibles?
Absolument. Elles sont possibles et même chiffrées. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on vous dit, par exemple, tout bêtement, qu'un mètre carré de champ avec des engrais, des pesticides, etc., va produire tant de maïs, ce qu'on ne dit pas, et ça, ce sont des études scientifiques, c'est que si on regarde dans une agriculture plus traditionnelle, de la paysannerie et pas de l'industrie de la FNSEA, eh bien, en fait, on ne travaille pas comme ça. On ne met pas un mètre carré de maïs en entassés avec de l'engrais. On met des petites surfaces, on fait tourner les récoltes, on enrichit le sol et on arrive à produire pour nourrir beaucoup plus. Parce que les grandes extensions, elles sont orientées sur le maïs, par exemple, ou sur d'autres, mais c'est pour nourrir du bétail, parce que c'est pas pour nourrir la population. Donc on ment.
Oui, parce que beaucoup de ces productions intensives, à grands coups de chimie, en fait, vont servir à l'exportation.
Si vous voulez, il y a une espèce de jeu de dupes absolument monstrueux, mais qui finalement tombe sur les populations et la santé.
Un énorme chantier et beaucoup d'attentes sur des sujets sensibles. Quelles sont les positions et les exigences de la coordination ?
Alors nous, si vous voulez, quand on parle de la coordination, on va parler à deux niveaux. C'est-à-dire la coordination en lien avec le national et l'Europe. Elle porte ces sujets politiquement pour dire ce qu'on veut. C'est qu'on mette d'abord et avant tout la question de la santé avant la question de l'économie. Ça, c'est une première chose. La partie Beaujolais, etc. On travaille à faire des recherches avec des scientifiques, parce que c'est là où on est sur un jeu de dupes. Il n'existe plus, alors que ça existait il n'y a pas si longtemps que ça, des registres départementaux de cancer, des registres départementaux de malformations congénitales ou d'autres pathologies. Or, sur le Beaujolais, quand on a travaillé avec Génération Future sur les questions pour ouvrir les consciences, y compris des mères, sur leurs responsabilités par rapport aux familles, ils nous répondent, vous n'avez pas de chiffres et c'est faux, il n'y a pas de leucémie, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Alors nous, on est allé voir, et avec le registre de malformations congénitales qui travaille sur ces territoires. Elle nous a donné des cartographies. On a un doctorant qui travaille un an dessus. Nous allons pouvoir sortir des chiffres des malformations congénitales là. Et pourquoi les malformations congénitales, c'est plus intéressant que le cancer, non pas que. C'est juste parce que là, on peut pas dire 5 ans après que le cancer que votre enfant a, c'est parce qu'il était pulvérisé à l'école. Là, c'est pollution, malformation. En revanche, pour les élus locaux, le problème est plus compliqué. Parce que les élus locaux, en gros, ils sont sur une tradition sur le fait que la santé ne les concerne pas. Il y a ceux qui commencent à comprendre, qui se forment et qui nous appellent à l'aide et qui nous demandent. Donc il y a ça. Il y en a qui sont sceptiques, mais qui sont encore susceptibles de nous entendre. Donc on y va dans les conseils d'agglomération, dans les contrats locaux de santé, on fournit. Et puis on attend que la lumière jaillisse. Et puis il y a ceux, et je peux parler quand même d'une grande majorité, ça c'est le constat de nos amis des coquelicots qui depuis des années essayent de réunir les parents d'élèves, les mères, etc. Génération Future vient faire des captages et donne les infos, rien ne bouge. Et la question c'est qu'on ne nous répond même pas parce qu'on sait qu'on ne veut même pas nous entendre. Donc voilà, toutes nos actions sont là et on en a pour quelques temps et beaucoup d'énergie.
Je crois qu'effectivement, il suffit de changer de logiciel et de changer de modèle de production. On peut avoir des modèles de production intensifs de nature à assouvir les besoins en aliments de la population sans utilisation massive de la chimie. Encore faut-il en avoir la volonté et aujourd'hui, cette volonté, elle manque.
Alain Guay, éditeur Esta, merci.
Merci.
Loi d'urgence agricole, désormais, le Sénat se prépare au débat prévu mi-juin en commission sur le volet eau, faciliter le stockage et éviter les restrictions dans les aires de captage à l'industrialisation de l'élevage. À voir.
Initiative citoyenne, rencontres, festivités. Partageons-les sur Calade.
Ma radio.